Je pense beaucoup à la notion d'éducation de la pensée.
Si jamais il y a un but que je poursuis, c'est la singularité.
Essayez toujours de se cultiver, de se frotter au savoir des autres.
Beaucoup travailler.
Le musée SACEM présente Dans la peau d'un auteur, un podcast écrit, réalisé et présenté par Sandra Bechtel.
Qu'il soit compositeur ou parolier, émergent ou confirmé, dans l'ombre ou la lumière, chaque auteur porte en lui une musique singulière, au rythme unique qui résonne. Comment déchiffrer un auteur ? Peut-être comme une partition, avec méthode, patience, désir et précaution. C'est ainsi que nous allons nous glisser, aujourd'hui mardi 6 février 2018 à Paris, dans la peau de Marion Sarrault, une grande dame de l'écriture à l'image, à l'univers et l'engagement aussi trempés que son tempérament. Bienvenue dans la lumière de son paysage intérieur.
Marion.
Oui.
Oui. Bon, alors, votre nom, c'est Sarrault.
Oui.
Votre prénom, c'est Marion.
Oui.
Est-ce que vous avez un pseudo ?
Pas du tout.
Pas de pseudo, pas de diminutif, pas de dans le métier, rien.
Rien du tout. Marion, moi, c'est Marion Sarrault, basta.
Enfin, ok. Voilà. Quel est votre métier exact ?
Ben, écoutez, moi, j'allais dire que je suis réalisatrice.
Oui.
Pour la télévision, enfin, pour ce qui est de l'image, et je suis metteur en scène pour ce qui est du théâtre. C'est-à-dire que je distingue les deux.
Oui.
Parce que réalisatrice, ça a un côté très spécifique, ça implique des images, des tournages,
ouais,
etc., une caméra et tout. Alors que la mise en scène pure au théâtre, où il y a, où c'est une scène, un rapport scène-public, où on voit tout, alors que pour la réalisation, c'est une sélection que l'on fait soi-même. Donc voilà, et moi je considère que c'est pas un double métier. Parce qu'en fait, c'est deux métiers qui se ressemblent, mais dont la visualisation est différente.
D'accord, voilà. Oui. D'accord. Il y en a un, c'est... Oui, il y a un écran qui sépare, mais c'est un travail de l'image.
Voilà.
Ok. Vous êtes membre de la SACEM.
Oui.
Depuis quand ?
Alors, ça doit être entre les années 70 et les années 80.
80, d'accord.
Voilà.
Début des réalisations pour la télévision, des émissions, tout ça.
Ok. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire votre nombre d'années de carrière, approximatif.
Oui, d'années de carrière, oui. En tant que réalisatrice.
Oui, avant vous étiez plus...
J'ai commencé, moi, à vraiment travailler en 1963. Je suis rentrée à l'époque à l'ORTF,
ouais,
qui est devenue très vite la SFP, et je suis rentrée comme script.
Ouais.
Ensuite, j'ai été assistante de 63 à 70. À 70,
d'accord,
j'ai commencé à réaliser, grâce à Maritier et Gilbert Carpentier, et j'ai commencé à réaliser, donc depuis 70, je suis réalisatrice, donc vous avez calculé en étant 2018
48 Oui, c'est ça.
48.
Donc, en tant que réalisatrice, d'accord,
voilà,
très
48.
Bien. Oui, si je mets ça comme métier, c'est cohérent. Très bien.
Voilà.
Votre lieu de résidence, j'y suis.
Oui.
Paris. Alors, est-ce que, selon vous, vous avez un signe particulier ?
Qu'est-ce que vous appelez un signe particulier ?
Je ne sais pas, comme vous l'entendez. Quelque chose qui vous semble particulier, je sais. Ça peut être une marque de fabrique, une distinction, quelque chose que vous,
alors,
qui
moi,
vous appartient.
Oui, quelque chose qui m'appartient, ouais, et qui est extrêmement personnel. C'est que depuis, depuis 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans, j'ai un parcours spirituel.
Ah oui.
En fait, je pense beaucoup à la notion d'éducation de la pensée.
Mm.
D'éducation. Quand on a une pensée, vous savez, j'ai dit toujours, un médecin, s'il veut un jour opérer et s'il veut devenir un jour un bon médecin, il a des études à faire.
Bien sûr.
Et s'il veut passer, il peut pas être médecin tout d'un coup, aller opérer, voilà. Et moi, je pense que la notion de l'éducation, éduquer sa pensée, éduquer sa pensée de telle manière que, moi, j'essaye de, quand on parle avec mes petits-fils, j'essaye de leur dire, de toute façon, il y a une chose qui est fondamentale, ne rendez jamais les autres responsables de ce qui vous arrive. Réfléchissez. le fait de faire ce parcours, spirituel, me permet d'avoir ce que je nomme, moi, une sécurité intérieure. Mmh. Voilà, j'ai une sécurité intérieure où, lorsque je me heurte, parce que ça nous arrive en permanence, à des épreuves, à des problèmes, à des soucis, même si la réaction première est de s'énerver, de s'agacer, etc., très vite, vous savez, c'est presque une mécanique interne. Mmh. Très vite, on revient et on réfléchit. Voilà. Et du coup, on se dit que tout a un sens. Comme tout a un sens, automatiquement, ça vous donne à l'intérieur de vous une sorte de une sécurité.
J'aimerais une chose que vous me disiez, une chose que vous aimez, très simple.
Ma famille.
Ok.
Ma fille, mes petits-fils. Voilà.
Et est-ce qu'il y a une chose que vous adorez, que vous aimez plus que ça?
Eh ben,
pas
c'est,
plus, mais
c'est la personne qui m'a fait vraiment, j'allais dire, l'honneur et la grâce de me mettre sur ce droit chemin.
D'accord.
Voilà. Et cette personne.
C'est un philosophe ou quelqu'un de sage?
C'est un philosophe, ouais. Absolument. C'est un philosophe, un musicien, un philosophe, un grand musicien, un sage, une personnalité qui a beaucoup travaillé sur lui, qui est quelqu'un de particulier, un monsieur.
D'accord.
Voilà.
Ok. Quelque chose que vous n'aimez pas?
Alors, je vais vous dire ce que je n'aime pas. Je n'aime pas que les gens traitent les autres de cons. Et des fois, mais moi, ça m'énerve. J'ai envie d'appeler et de leur dire, écoutez, vous n'avez jamais fait de conneries dans
votre vie? Oui, c'est ça.
Vous n'avez jamais dit de bêtises, vous êtes totalement au-dessus de la mêlée. Non.
Et on voit beaucoup ça sur les plateaux télé, dans des émissions de critiques ou quoi, où ils sont là et vous êtes un con parce que vous défendez telles idées, parce que vous, votre famille.
Parfois, ils parlent
des femmes.
De gens.
C'est dingue.
Ils parlent des gens qui ne sont pas là.
Oui.
Qui est encore pire.
Oui. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous détestez?
Qu'est-ce que je déteste?
Ouais, qu'est-ce que vous détestez plus que les gens qui traitent de con?
Alors, qu'est-ce que je déteste? Je déteste la méchanceté.
Ouais.
Je déteste la méchanceté.
D'accord.
Je trouve que j'allais dire, le minimum syndical d'un être humain, c'est d'être gentil avec les autres.
Ok. Est-ce que vous pourriez vous définir en trois mots? Ceux d'aujourd'hui, hein. Parce que j'imagine bien que vous n'êtes pas réduite à trois mots. C'est difficile.
Non, mais je ne serais pas, moi.
Ceux d'aujourd'hui.
Je suis impatiente.
Ok, c'est parfait. C'est presque un signe particulier.
Ouais.
On n'est pas loin du signe particulier. Alors, est-ce que vous pouvez me dire rapidement, mais je dis rapidement parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, mais on parlait tout à l'heure du statut d'auteur. Vous me dites, je ne suis pas auteur, je suis réalisatrice. En même temps, vous l'êtes quand même, du coup. De quelle manière on peut dire que votre métier concerne l'écriture?
Écoutez, moi, pour commencer, ça concerne l'écriture dans la mesure où j'ai commencé à réaliser. J'ai une vision particulière, j'allais dire, de la chose à réaliser, que ça soit une chanson, à l'époque où je travaillais avec les Carpentiers, parce que ça a été mes premières réalisations.
Ouais.
J'ai une vision particulière qui m'appartient, qui vient, je pense, d'une certaine inspiration. Ma vision des choses est spécifique et particulière, m'appartient à moi. Dans la mesure, et c'est peut-être ça qui fait que je suis auteur de mes images.
D'accord.
Parce que
l'aspect technique est
pas seulement technique, c'est là aussi la façon dont je dirige un acteur.
Oui.
Pourquoi est-ce que je lui demande de jouer cette scène comme ça? Pour moi, ça, c'est de la, j'allais dire, ça, c'est de la...
C'est de l'écriture.
C'est de l'écriture.
Oui, bien sûr, dans l'espace.
C'est de l'écriture, c'est voilà, l'écriture. Je vais faire ça, etc. Tu vas faire ça plutôt comme ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, cette écriture cinématographique a une forme d'image de marque. C'est une image de marque, et je vais aller même, sans prétention vous dire, c'est qu'il y a des gens qui reconnaissaient les émissions que je faisais à la manière dont elles étaient faites. Voilà.
D'accord.
Voilà, c'est, je pense que quand...
C'est comme quand on entend un dialogue d'Audiard ou même la musicalité des dialogues de Romer.
Oui, c'est tout à fait.
On sait que c'est du Romer.
Voilà, on sait que c'est du Romer,
pas,
exactement.
Oui,
tout à fait. Et je pense qu'en fait, cette moi, je dirais, tout cela vient d'où ? Vient de l'inspiration. Cette inspiration que je considère de plus en plus avec le temps et qui est une chose qui ne m'appartient pas. Vous voyez, une fois de plus.
L'inspiration ?
Ah oui. Alors, je vais vous dire un truc très amusant. C'est que, en fait, on va revenir, si vous voulez, dans ma notion de vision spirituelle des choses. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, même la plupart du temps, quand je mets en scène sur le papier une scène, je me mets en état d'inspiration. Je reçois une inspiration de comment faire les choses. Mais, la chose très importante, ce dont parle également Einstein, qui dit, si je n'avais pas préparé mon terrain à recevoir la théorie de la relativité, qui m'a été inspirée, toujours la grande modestie de ces grands personnages, dit en fait, ce qui est important, c'est préparer un terrain. Moi, metteur en scène, j'ai préparé un terrain, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai construit, etc. J'ai fait mes expériences. Et on a un terrain qui est prêt. Mais vous savez que moi-même, pendant des années, je n'ai jamais écrit une ligne parce que d'abord, un, ça ne m'intéressait pas. Deux, je ne m'en étais pas capable. Et il y a un moment de ma vie où c'est devenu une évidence où j'ai commencé à écrire petit à petit, où j'étais aspiré. Et je vous dis, quand je vous dis, j'étais aspiré. Quoi. Je dis pas forcément que c'est bien hein, ce que j'ai écrit. Mais tout d'un coup, c'était comme si c'était une expression fondamentale, mais qui me venait. Et plus ça va, et plus je me sens que les choses me viennent. Voilà. C'est-à-dire, me viennent. Elles ne viennent pas de moi, elles me viennent. Et ça, c'est réjouissant. Hein. Je peux vous dire, c'est réjouissant, ça. C'est un bonheur. Hein.
Et du coup, est-ce que vous avez conscience de vos besoins par rapport au fait d'être dans cet état de créativité, est-ce qu'il y a des besoins clairs, des conditions
de... Ben, me mettre en état d'écriture, en fait, finalement, c'est très, j'allais dire, au départ, c'est très mécanique. Hein. C'est très mécanique, c'est-à-dire que je fais n'importe quoi, je me mets devant mon ordinateur, j'allume l'ordi, je prends un texte, un truc que j'ai écrit, etc., je regarde, je reprends, je relis, et non, c'est une espèce de relecture, si vous voulez, une espèce de d'évidence de choses qui viennent, mais d'une façon très, je pourrais dire instinctive. Or, je pense pas qu'il s'agit de l'instinct, il s'agit d'autre chose. J'ai pas besoin de me mettre en état de préparation, voilà.
D'accord. Et du coup, par rapport au désir, parce que ça rejoint l'état dans lequel on se met, et est-ce que c'est quelque chose qui est présent en permanence chez vous, ce
pas
désir de faire, il y a des moments de rupture, et du coup, vous
l'alimentez... Pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà au départ un effort à faire, d'allumer son ordinateur, d'aller dans le truc qu'on veut, voilà, de prendre la peine de relire, de la peine de réfléchir. Non, il y a par exemple, je vais reprendre la notion de mise en scène aussi bien au théâtre, voilà. C'est-à-dire que quand vous êtes face à la page blanche, enfin à la page écrite, et que vous dites qu'est-ce que je vais faire à cet endroit-là,
ouais.
Comment je vais leur demander de jouer ça, qu'est-ce que j'ai envie de voir au niveau de l'image, automatiquement, il y a une forme d'abstraction de soi-même qui se fait. Et une projection d'autre chose. Voilà, donc c'est déjà l'effort est de se prendre le truc, de le mettre devant soi, de le lire, de réfléchir et de visualiser déjà les choses je vais vous rigoler, c'est quand des fois j'arrive pas à faire une scène, je me mets devant ma télé noire comme ça, je regarde, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que j'ai envie de voir. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? J'ai envie de voir, là, il va faire ça, comment j'ai envie de le voir, comment j'ai envie de le filmer. Voilà, c'est très amusant. C'est juste une relation. Voilà.
Donc, il n'y a pas besoin pour vous, forcément, de désir pour créer.
Non.
Ok.
Non, non, des fois, je dis, pour vous, c'est un devoir, c'est un travail, quoi. Pour moi, c'est un travail. C'est un travail, j'ai un scénario, je me dis, il faut que je le fasse, comment je vais le faire. C'est tout. C'est un travail. C'est pas une... Bien sûr, c'est un plaisir. Au bout du compte, c'est un plaisir. Mais au départ, c'est un travail.
Mmh. Ok. D'accord. Est-ce que vous vous sentez engagé dans votre secteur de professionnel, dans votre métier, son évolution
Mon seul engagement, si je peux me permettre ça, c'est par exemple quand vous êtes sur un plateau avec une équipe de tournage, en essayant de respecter ce principe fondamental qui est le respect du droit des autres, c'est ça mon engagement.
D'accord, il est humain.
Voilà.
Et du coup, est-ce que vous avez une certaine notion sur le long terme de fidélité à quelque chose? Alors j'imagine que vous allez me répondre oui à ces valeurs, enfin, cette ligne de conduite que vous avez, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous pensez que la fidélité, par exemple, dans un parcours comme le vôtre, c'est important?
Fondamental.
Et alors à quoi?
Ben, c'est fondamental parce qu'à partir du moment, je pense, où on a décidé, entre guillemets, de faire un parcours, j'allais dire la moindre des choses, vous savez, je veux dire, c'est comme un mariage. Mmh. Hein, j'allais dire fondamental, malgré les écueils, malgré les problèmes qu'on peut rencontrer, malgré les conflits que l'on peut avoir avec l'autre, le travail fondamental, c'est d'essayer d'abord d'en parler pour essayer de garder cette notion de fidélité qui pour moi est un, et vous avez raison d'en parler, qui pour moi est un, c'est fondamental la fidélité.
Est-ce que vous vous sentez libre?
Oui, on n'est pas libre, personne n'est libre.
Ah, mais est-ce que vous vous sentez libre?
Moi, je me sens
dans
libre.
Votre vie, globalement,
oui,
dans
votre travail, je me sens libre en sachant parfaitement que je suis en permanence sous contrôle de plein de gens. Mmh. Voilà, cette liberté, en fait, elle est sous contrôle de plein de gens. Vous savez déjà, il faut que quelqu'un m'appelle pour faire un film. Il faut déjà que la chaîne accepte que ce soit moi qui le fasse. Ouais. Que on me donne un scénario que je ne peux pas travestir parce qu'il faut que je sois fidèle au scénario.
Ça, ce sont des contraintes.
Oui.
Oui, ou des obstacles aussi.
Mais ça empêche d'avoir une liberté totale, c'est évident. Mais sinon, je suis quelqu'un, je pense, de libre autant qu'on puisse être libre. Autant qu'on puisse être libre. Avec toutes les contraintes que l'on s'impose, que moi je m'impose, compte tenu de mon parcours, je m'impose des contraintes, donc la liberté, elle est tout à fait relative, quoi. Alors on est libre, qu'est-ce que ça veut dire? Être libre de tout faire?
Non, c'est un sentiment, parce qu'on n'est absolument pas libre de tout faire. On n'est pas libre, il y a des actions, des réactions, on réagit aussi à l'environnement. Donc,
tout à fait.
Mais c'est plus le sentiment que je voulais savoir.
Oui, 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 moi je me sens, très... Et plus ça va, plus je me sens libre, plus je me sens...
Par exemple, de dire non, justement, quand la contrainte vous paraît trop...
Oui.
Trop difficile,
oui,
à encaisser,
oui,
de dire oui à des choses qui n'étaient pas du tout dans vos prévisions, dire ben, je vais prendre cette liberté, je vais y aller. Enfin, vous voyez ce que je veux dire,
oui,
cette liberté-là.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à mettre, en fait, il y a deux choses. C'est que je pense que c'est aussi le travail sur l'ego. L'ego, se dire je vais mettre un peu mon ego de côté. Et je vais prendre la liberté de faire ce travail qui n'est pas forcément adapté à moi. Mmh. Je vais le faire parce qu'il faut le faire, parce que j'ai besoin de gagner de l'argent, parce que j'ai besoin de machin. Donc ça, c'est une liberté. La liberté de choisir. De choisir, entre guillemets, en mettant son ego de côté et en sachant pertinemment qu'on est, comme je vous dis, en permanence sous contrôle. Mmh. C'est-à-dire que on est... Là, vous voyez, on m'a proposé, on m'a demandé... La France Télévisions m'a demandé de travailler sur un projet. Ben, ce projet, je sais pertinemment qu'il va être difficile à mettre en place. On a un producteur, il faut trouver un scénariste. En plus, comme tout est en train de changer à France Télévisions, si ça se trouve, le projet va être balayé, boum, demain. Peut-être vous dire, hop, non, finalement, on ne le fait pas.
Oui.
Voilà. Eh ben, j'ai aussi la liberté de me dire...
Je fais ou je ne fais pas.
C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça, ce doit être comme ça.
Oui.
C'est peut-être même meilleur pour moi que je le fasse pas.
Oui.
Voilà,
oui.
C'est ça.
D'accord.
C'est-à-dire.
Et du coup, est-ce que vous vous sentez heureuse?
Très.
Ah, c'est bon à entendre.
Mais profondément heureuse, je dis, je suis une femme très heureuse. Je suis une femme qui a eu toutes les chances dans sa vie, qui a eu la possibilité de laisser dire. J'ai une vie très, très heureuse. J'ai une famille merveilleuse. J'ai de la chance d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir de l'argent à mon compte en banque, de pouvoir, j'allais dire, rouler dans une voiture, de pouvoir, et surtout d'avoir ce parcours spirituel qui me permet de...
De jouir de tout ça, vraiment.
Voilà, de savoir pourquoi tout ça ouais. est, puis d'essayer d'en faire profiter les autres. Mais moi, je suis une femme, mais très, très, très heureuse. Je le dis au clair et fort.
Super.
Très heureuse.
Je le ressens. Ouais. Je ressens. Est-ce que le fait d'être une femme, du coup, heureuse ou pas, ça, vous avez l'impression que dans votre carrière, ça a été une place particulière et qu'il a fallu gérer cette condition
oui.
féminine
Oui, oui, absolument.
Alors, de quelle manière?
Alors, je vais vous dire, c'est très simple. Tant qu'on est, j'allais dire qu'on a, entre guillemets, moi, je vais vous dire, je suis des années 70, 80, ouais. tant que j'avais un travail, entre guillemets, subalterne.
Ça allait?
Ça allait, j'étais script, assistante, je dépendais d'un réalisateur, d'un producteur, mm-hmm. etc. Donc, j'avais un travail subalterne où on pouvait me donner des ordres et on pouvait me dire, fais ceci, fais ceci, fais cela. Ça passait très bien, aucun problème. Du jour où j'ai commencé à réaliser, j'étais jeune, j'avais 33 ans, vous savez, à l'époque, ouais. ça commençait à devenir assez compliqué.
Ça m'étonne
parce
pas.
Que, en plus, il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais la première femme réalisatrice à la télévision, la réalisatrice de grandes émissions, de variétés, ouais. etc. J'ai eu affaire à un monde d'hommes. C'est un monde d'hommes. C'est vraiment un monde d'hommes énorme. À part ma productrice Mariti, qui était une femme exceptionnelle, Gilbert, son mari, pareil. C'est un monde d'hommes où j'avais des caméramans, où j'avais des ingénieurs du son, où j'avais des chefs opérateurs, où j'avais des éclairagistes, où j'avais même des artistes, hommes. Tout ça, il a fallu arriver à s'imposer d'une certaine manière.
Absolument.
Même, je l'ai fait d'une façon qui n'était pas toujours très honorable, dans la mesure où il m'est arrivé, pour m'imposer, à faire des choses, à crier sur les gens, à être dure, à être exigeante, à être sans concession, etc. Tout ça.
Pour marquer le territoire.
Pour marquer le territoire. Ouais. Et les gens me disaient, mais essaye d'être plus féminine. Sers-toi de tes atouts plus féminins pour ces.
Oui, bien sûr.
Puis non, excusez-moi, je serai
un homme.
Vous, je suis un homme, vous ne me direz pas ça, ne me considérez pas comme une femme. Considère-moi comme un réalisateur.
Ouais.
Voilà. J'ai une statue, j'ai une fonction. Considérez-moi comme ça et non pas comme une femme. Mais ça ressort toujours. Et c'est pas mal aussi en même temps. Il faut arriver à gérer. C'est-à-dire qu'au début, on rentre dans un excès énorme. J'ai dit, toute révolution implique un excès.
Ok. Est-ce que vous avez des choses, des révoltes, des choses qui vous révoltent et voilà, qui vous font réagir et même qui vous font vous impliquer.
Oui. Alors moi, c'est la violence faite aux femmes, ça c'est évident. J'ai fait un film qui s'appelle Un viol sur une histoire de.
Oh, c'est vous qui avez fait ce film avec
oui. Marianne Bassler.
Exactement.
Oui.
D'accord.
Voilà.
Je l'ai vu. Ah, c'est dingue.
J'ai fait ce film. Pour moi, j'ai lu un jour, c'était il y a quelques années, j'ai lu un jour, il y a une dizaine d'années, un entrefilé, un truc très simple, une femme qui était une femme médecin, enfin en tout cas dans le milieu médical, qui était une femme qui essayait d'accéder à un pouvoir à la hauteur des hommes, un jour avait été violée par un de ses collègues, etc. Je me suis dit, tiens, on va écrire là-dessus, et j'ai commencé à écrire ce truc sur le viol. Que j'ai donné à un producteur et qui s'est fait tout de suite. Ça a été un petit miracle. Mais voilà, pour moi, la violence faite aux femmes est une chose inadmissible. Inadmissible.
Là,
pour moi, est une vraie révolte. Une vraie révolte, une vraie... Et je dis au-delà. Alors, il y a deux choses. Il dit au-delà de cette révolte personnelle, je pense qu'on devrait davantage éduquer les filles. Les éduquer davantage. Au lieu de dire... Au lieu de prendre le après, il faudrait prendre le avant. Voilà, essayer autant que faire se peut d'essayer d'éduquer les femmes et surtout d'éduquer les mecs. Mais bon, il y a du boss, il y a du boulot, hein.
Énormément.
Il y a du taf, hein.
Mais voilà, moi tous les jours, je fais ma partie. C'est possible. Est-ce que vous avez une journée type?
Surtout les, il y a surtout les rituels du matin et les rituels du soir.
Oui, c'est vrai.
Le reste, la journée se passe, etc. Mais le rituel du matin, une heure, le rituel du soir, une heure, ça, c'est imparable.
D'accord. Quel est votre rapport à la notoriété? Est-ce que vous en avez une? Elle est comment? Est-ce que vous en avez besoin?
Alors, si fondamentalement, je peux vous dire que j'en ai rien à foutre.
Ouais. C'est pas hyper clair ce que vous venez de me dire là.
Mais je vais nuancer mon propos.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais rien fait dans la vie pour être connu. Voilà. Mais, très honnêtement, quand par exemple vous venez m'interviewer comme ça, je trouve ça extrêmement agréable. Quand on me fait un truc sur le patrimoine, je trouve ça très agréable.
Ouais.
Quand mes films sont projetés, que les gens se lèvent pour applaudir, je trouve ça très agréable. On vient me dire, oh, dis donc, t'as un parcours formidable et tout ça, qu'on me fait des compliments, je trouve ça très agréable.
Ouais.
Quand ça me permet en plus de faire des choses que j'ai envie de faire, je trouve ça très très bien. Donc, je ne crache pas sur la notoriété du tout, parce que quelque part, ça fait vraiment du bien à votre égo. Hein.
Et peut-être, je me pose, oui, parce qu'en vous écoutant, je me dis peut-être que, parce que vous parliez de l'ego, je me dis peut-être que ce n'est pas qu'une question d'ego, aussi c'est peut-être une question de sécurité intérieure.
Et sécurité intérieure et reconnaissance du travail.
Ça vient à cette douceur dont vous parlez,
voilà.
Ça fait du bien dans ces carrières et ces choix de vie où tout est sur un fil, finalement en permanence, on n'est jamais vraiment sûr de rien, et il y a une prise de risque permanente. D'avoir ce retour de reconnaissance.
De reconnaissance du travail et
oui,
de tout
c'est ça.
C'est très bien. Oui, non, mais c'est vrai. Quand les gens me disent, oh, mais j'adore vos films. Ah bon, j'adore. Bah, très bien. Oui. Bon, on dit, ben voilà, bah, c'est une reconnaissance de mon travail, finalement.
Oui. Est-ce que vous avez plutôt la sensation d'avoir fonctionné à la stratégie ou à l'instinct, ce qui n'est pas forcément incompatible. Mais pour avancer, faire des choix.
À l'instinct.
À l'instinct.
À l'instinct, pas la stratégie. J'ai
d'accord.
jamais eu de stratégie dans ma vie.
D'accord.
Jamais. Non, je ne suis pas de ma nature, hein. Je ne suis pas une stratège du tout. Non, c'est une question de nature.
Oui,
c'est pas un choix.
C'est pas péjoratif.
C'est pas un choix. Moi, je fonctionne à l'instinct et puis en me disant, bah, tiens, on me donne du boulot, bah, je le prends.
D'accord.
Voilà.
Super. Est-ce que vous sentez une usure du temps? Jamais.
Non, pas du tout.
Vous avez la même sensation, hormis les conditions physiques, parce que ça, c'est même pas de l'usure, c'est la vie, mais
ben, c'est
de
comme
vitalité,
ça.
De désir, d'envie,
toujours,
pas d'usure.
Toujours pareil.
C'est génial.
Et je me dis, le jour où je dis, je voudrais faire comme Molière, mourir en scène, vous savez, quasiment, je me dis, en fait, non, il y a une chose très importante, c'est que je voudrais préparer ma mort. C'est-à-dire que je ne voudrais pas que ça me tombe comme ça dessus. Je voudrais préparer. Je voudrais me voir préparer ma mort. C'est-à-dire aussi bien par rapport à ma famille, par rapport à tout un tas de choses, préparer ma mort. Je pense que c'est vraiment une grâce de pouvoir préparer sa mort. Je suis même en train de préparer une lettre. J'ai dit le jour de mon enterrement, j'ai dit à un de mes amis que j'adore, qui est un homme, un jeune homme, parce qu'il a 50 ans, mais il a l'air d'un jeune homme, qui est mon meilleur ami.
Qui est dans votre métier aussi?
Non, pas du tout. Bah, lui, il s'occupe. Alors, lui, il est délégué général de la, parce que, au Stade Elahi, il y a une fondation qui existe.
Génial.
Qui s'appelle la Fondation au Stade Elahi, Éthique et Solidarité Humaine.
D'accord.
Dont je suis administratrice. Et lui, il est délégué général de cette fondation.
D'accord.
Et, il m'a dit, tu devrais écrire une lettre que je lirai le jour de ton enterrement. J'ai dit, oui, mais moi, j'entendrai pas. Il dit, mais si, tu seras là, t'entendras très bien.
Ah, bah oui,
voilà.
C'est clair.
Il dit, voilà, une lettre, écrire à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants, à mes amis, etc. Tout ça. Donc,
il a raison.
Je la prépare. Dans ma tête.
C'est tellement fort, c'est super.
Je la prépare, voilà, c'est ce que je vais leur dire, à peu près.
Waouh. Ok. Est-ce que je peux avoir un petit zoom sur une anecdote marquante?
Il y a une chose, qui est très intéressante, dont je parle de temps en temps, c'est, par exemple, quand vous quand vous allez tourner un film,
ouais,
vous savez très bien que la journée va être difficile, qu'il va y avoir des conflits, que moi je risque de m'énerver, que je risque de péter un plomb, etc. Tout ça. Donc le matin, au moment où je fais ma toilette, je me remets entre les mains de Dieu, je dis, voilà, et je lui demande, carrément, comme ça, parce que j'ai une relation très directe avec lui. Voilà, je n'ai pas d'intermédiaire, une relation très directe, je ne suis pas comme ça, personne à personne, quasiment.
Vous avez son 06, quoi.
Oui, j'ai son 06, c'est exactement ça. Et je lui dis, écoute, voilà, la journée va être dure, tu connais ma nature, tu sais comment je suis fabriqué. Tu sais très bien que pour un rien, je suis capable de m'énerver contre quelqu'un et la personne va être, ça va pas bien se passer, la personne va être triste, je vais faire du mal à la personne. Alors essaye de m'aider à être patiente, puisque je suis impatiente. Que j'essaye d'être, alors je fais un travail, je me prépare. Un vrai travail de préparation comme les sportifs. J'arrive au tournage, la journée se passe bien, voilà, pendant un mois de tournage, cinq semaines, ça se passe très bien et je dis, bon, peut-être que là, ils vont penser, l'équipe, voilà, que je suis quelqu'un de bien, entre guillemets. Et un jour, pour une raison, mais stupide, c'est même pas que vous vous énervez, c'est que vous voyez le temps qui passe, parce que vous avez la gestion du temps qui passe, vous voyez le temps qui passe, vous voyez que vos assistants, vos assistants ne font pas le travail qu'il faut pour pouvoir pousser à la technique à être dans les heures, dans les horaires. Donc, tout d'un coup, vous pétez un plomb. Vous pétez un plomb, pas énorme, voilà, vous énervez, donc vous ne vous rendez pas compte, etc. Et là, vous êtes assez violent, parce que je peux être très violent. Moralité. À la fin du tournage, on demande à quelqu'un comment ça s'est passé. Oh, dis-moi, elle s'énerve, hein. Voilà. Donc,
quelle injustice.
Tout le travail que vous avez. Voilà. Et moi, j'ai eu un énorme conflit comme ça avec ma fille qui m'a dit, oui, mais tu te rends pas compte, comme tu peux être dur, etc. Mais je lui dis, chérie, je te jure, j'ai fait un travail pendant tout ce tournage. Oui, mais tu comprends. Et j'ai une réputation. Et c'est tant pis pour moi. Dont je ne me sors pas. Voilà. Bien qu'ayant travailler sur moi pendant un mois, en étant essayante, etc. Mais, il y a un moment où vous êtes face à une situation où vous apercevez que les choses ne s'enclenchent pas, donc il faut pousser à la roue.
Et c'est ça qui va rester comme empreinte.
Et voilà.
Ouais. Mais ça ne m'étonne pas. Ça
voilà. Très bien. Voilà. Donc, c'est peut-être l'anecdote que je pourrais vous raconter.
Ah, oui.
Donc, voilà, il suffit que votre travail de chef d'orchestre est très délicat dans la mesure où vous dites un mot à un acteur qu'il ne faut pas dire, vous dites un mot à un technicien qu'il ne faut pas dire, etc. Tout ça, et vous êtes catalogué et jugé.
Et la dernière, est-ce que vous pourriez me donner entre 0 et 5 personnes pour vous qui sont marquantes dans tout votre parcours? Alors, je sais qu'il y a
Ostadelaï, c'est au-delà même de, ouais, voilà.
Déterminant, ça peut déterminant, être dans le métier ou dans la vie perso.
Hein, dans la vie perso, ma fille, évidemment.
Évidemment.
Ma fille. Mes petits-fils. Bon, puis je vais vous dire, mes amis, ce garçon dont je vous ai parlé, qui est délégué général, Marc.
Ouais.
Qui est quelqu'un qui compte beaucoup dans ma vie parce que c'est avec lui que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de tas de choses. J'ai oublié. Et puis, je voudrais aussi citer les trois personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier dans ce métier. Maritier et Gilbert Carpentier, qui ont été pour moi fondamentaux. Ensuite, il y a un monsieur qui m'a fait faire mes premières fictions, j'allais dire, qui s'appelait Henri Spade, qui est un monsieur merveilleux qui est bon, décédé. Et la troisième personne, c'est une dame qui m'a aussi mis le pied à l'étrier pour faire le film, qui était Mac Baudard. Voilà, donc c'est, je peux dire, c'est trois personnes qui ont énormément compté, d'accord, dans ma vie, qui ont été pour moi...
Des propulseurs.
Oui, que je remercie en permanence, parce que je trouve que c'est des gens qui m'ont tellement aidé. J'ai ma meilleure amie aussi, qui est une femme formidable, qui est directrice de production, qui s'appelle Catherine, et qui est aussi quelqu'un de très important dans ma vie, dans la mesure, vous savez, on dit, on a une meilleure amie. C'est quoi une meilleure amie? C'est la personne que, lorsque, à 4h du matin ou 3h du matin, on se réveille parce qu'on a une angoisse, on ne se sent pas bien, on est machin, on appelle la personne et là, une demi-heure après.
Ouais. Si on était le 1er janvier, là, et que vous aviez une résolution à prendre, là, tout de suite, ce serait laquelle?
D'essayer de m'améliorer en tant qu'être humain, c'est sûr.
Est-ce que vous pourriez donner un conseil?
Je dirais deux choses. Quand vous travaillez quelqu'un, qu'on vous propose du travail, acceptez-le et soyez inconditionnel. Ça, c'est évident.
D'accord.
Deuxièmement, ne rendez jamais les autres responsables de ce qui vous arrive.
D'accord. Et bien, pour finir, un vœu.
Que mes petits-fils réussissent dans la vie aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel.
D'accord.
Et qu'ils soient bien dans leurs chaussures. Voilà.
Bon, je suis ravie. On a eu un long temps, je suis contente. J'espère que je ne vous ai pas trop
mis du tout
en retard. Et encore, j'ai
accéléré. J'ai une journée tranquille. Moi.
Je suis tellement contente.
J'ai une journée très, très, très
cool. 8 heures avec vous.
Il est 12h26, heure d'émotion. Et heure pour nous de sortir de la peau flambante et éclairée de Marion Sarraut. Merci d'avoir fait le voyage et à très bientôt pour le prochain.